111 lieues le long du canal du Midi, tel est le troisième livre de cette collection de Kay Walter aux éditions Aimont. L'occasion pour nous de flâner de Sète à Toulouse et de découvrir des endroits insoupçonnés de notre région Occitanie. Bonjour Kay Walter.
Oui, bonjour.
Vous êtes journaliste et habitez Paris. Votre léger accent trahit vos origines germaniques. Mais vous avez été séduit par notre région. Ce livre, 111 lieues le long du canal du Midi, reflète votre intérêt pour les lieux insolites, parfois méconnus, même de ceux qui en sont les plus proches. Quelle a été votre idée de départ en élaborant cet ouvrage?
Oui, c'est bon. Le premier, c'est comme journaliste politique que vous avez dit, je parle presque toute ma vie que de la politique et de temps en temps, j'ai envie de faire quelque chose différent, donc de parler d'une chose plus beau. Et bon, chercher des lieux mal connus et raconter de belles histoires ou des secrets, soit une grande ville comme Paris, soit une région que je connais bien comme le Midi. Donc, laissons dans le lieu du canal du Midi, ce sont comme toujours une choix très personnel, pas du tout représentatif. Donc, je m'intéresse pas trop pour les incontournables, mais plus de découvrir des poteaux roses un peu cachés. Ça, c'est l'idée de cette livre.
Donc, voilà. Faire découvrir vous êtes drôle, vous dites des poteaux roses, voilà, des lieux insolites. Et votre livre que j'ai entre les mains présente un lieu emblématique par double page. Donc à gauche, la description de ce lieu, et puis à droite, une belle photo. Et puis vous donnez aussi quelques conseils pratiques, notamment les horaires d'ouverture, l'accès, et parfois un bon petit restaurant à proximité. Et ce qui en fait une sorte de guide. Vous avez donc longé, Kay Walter, le canal du Midi. Est-ce que vous pouvez nous découvrir un petit peu nous décrire votre pérégrination au long de ce canal qui, rappelons-le, avait été conçu par Pierre-Paul Riquet au XVIIe siècle?
Oui, bon, le canal même, il est par hasard patrimoine mondial de l'UNESCO pour plus que 20 années, donc avec sa longueur de 2040 km, les 63 écluses et tout ça, donc Évidemment, je parle de tout ça parce que à l'époque c'était une vraie merveille. Il faut s'imaginer que le canal il était construit dans 14 années. C'est incroyable aujourd'hui de faire une œuvre de cette taille en 14 ans. Mais il a fait. Donc ça c'est le premier merveille. Mais on faut s'imaginer aussi que le lac Saint-Ferréol, qui était pour 200 années le plus grand du monde, avec une barrage qui n'existerait pas en avant. C'était le premier tunnel pour une canal à Malpasse. Toutes les choses comme ça, mais à l'autre côté, normalement, on pense donc une canal, au minimum, il faut avoir un début et une fin. Mais bon, le canal du Midi, c'est un peu différent. On ne sait pas jamais où est le début. Mais c'est, bien sûr, c'est Toulouse. Mais
oui, avec le pont de l'embouchure.
Oui, bien sûr. Mais quand on prend le nom, pont d'embouchure, ça donne une idée du fin. Ça donne pas l'idée du début.
Oui, c'est vrai.
Et à l'autre côté, même les deux écluses là-bas qui sont... arrivé dans la Garonne, il n'existe pas encore. Parce que à cause du travail, de construction du autoroute A620, ils sont fermés. Donc ça ferme là-bas.
Oui. Alors vous montrez justement différentes caractéristiques du canal du Midi. Vous avez évoqué à l'instant les écluses, mais il y a aussi les barrages, les points de débordement, évidemment le chemin de halage, et puis il y a ces fameux platanes. Vous avez quand même découvert au long de votre pérégrination des écluses. Vous avez découvert un point de débordement. Vous avez découvert des ponts. Est-ce que vous pouvez nous citer deux trois éléments assez atypiques que vous avez vu pendant cette pérégrination?
Ah bon, parlant du canal même, j'avais déjà dit le tunnel qui a une histoire extraordinaire. Même les platanes, ce ne sont pas été les premiers arbres qui sont érigés à cause à côté dans les berges du canal. Même si l'idée de fixer les bergères du canal, ça vient du Riquet même, mais au premier, c'était d'autres formes des arbres.
Oui,
Mais
c'est ce que vous
après, on
expliquez
a
dans votre guide. Il y avait au début des arbres et puis après des peupliers, des mûriers. Et puis en fait, c'est
Oui,
beaucoup
c'est
plus
ça.
tard que les platanes ont été plantés. Oui.
C'est ça. Et maintenant, les platanes, ils sont leur propre cancer. Donc, il faut retrouver une nouvelle possibilité parce que les platanes, ils protègent aussi l'humidité. Donc, avec tout le monde qui connaît le canal, il fait le fameux tunnel des
Et oui, ils
platanes.
évitent l'évaporation de l'eau du
C'est
canal,
ça,
notamment.
exactement.
Et en ce qui concerne, il y a un pont qui s'appelle le point de débordement, l'épanchoire de la Redorte.
Oui.
Expliquez-nous un petit peu ce pont. Il est donc dans l'Aude et il est en fait un double emploi, ce pont.
Oui, il a un double emploi parce que c'est pas seulement une pompe. Donc, une pompe pour des bateaux aussi. Même si on est en bateau, on ne trouve même pas de se trouver dans une pompe. Mais à l'autre côté, il protège le canal contre le trop de l'eau en hiver. Et il est un vrai épanchoire. On peut le voir de la côté arrière. Que ça donne et ça laisse de l'eau dans le petit rivière là-dedans.
Cette rivière qui s'appelle l'Argent Double, qui a quand
C'est
même
l'argent double, c'est ça,
un nom
exactement.
absolument charmant. Oui. Les écluses, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, puisque en fait elles permettent de rehausser ou de rabaisser le niveau, et c'est quand même un travail extraordinaire qu'on peut découvrir et notamment montrer à des enfants pendant les vacances, notamment.
Ah oui, bien sûr. Comme j'avais dit, aujourd'hui, on a 63. Le numéro, il a changé à cause quand le canal, il change un petit sa structure. Par exemple, à Béziers, pour beaucoup de temps, on a utilisé l'Aude pour quelques mètres, 800 mètres. Aujourd'hui, on a changé. Donc, ce sont 63 écluses, donc 15 entre Toulouse et Nourouze, donc le seuil de Nourouze. Il fait un rehaussement du 57 mètres, je crois. Et du sept pente plus haute du canal à Nourouze, ils descendent dans 48 écluses pour presque 200 mètres au niveau au bord de la mer. Le plus fameux, bien sûr, c'est l'escale du écluse à Béziers. Et à l'époque, 9 escales, c'est une écluse seulement. Ce sont différents escales, mais ça reste comme c'est prévu comme une écluse seulement.
Oui, c'est ça. Vous évoquez le seuil de Nourouze, qui est cet endroit assez fascinant où on peut observer l'eau qui part en fait dans les deux sens, le sens vers la Méditerranée et l'autre sens vers l'Atlantique. On voit vraiment, et ça c'est assez fascinant aussi à montrer à des enfants. Et vous écrivez, les habitants du Midi sont farouchement indépendants. Tous ceux qui ont un jour lutté contre l'Église catholique ou les rois trônant à Paris, qu'ils soient cathares, albigeois, templiers ou huguenots, venaient du Midi. Alors, des châteaux, des églises sont vraiment les témoins de ces temps troublés. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns de ces monuments, de ces châteaux, de ces églises qui ont retenu votre attention et qui montrent vraiment cette histoire religieuse de notre région Occitanie?
Oui, il y a plusieurs, bien sûr, et presque dans tous les petits villages, comme les grandes villes, on trouve des choses qui racontent une part de cette histoire. Je vais vous parler une chose, dans la région toulousaine que beaucoup de gens ils ne connaissent pas, s'appelle d'une clocher de Montgéard.
Clocher de
Et
Montgéard.
le Mangeard, oui. Donc, Mangeard, ça vient du nom du vieux comte de cette région qui a lutté contre les cathares ou était responsable de faire ce. Et mon jar, c'était construit pour donner un peu de peur. Donc, pour dire aux gens de la région, n'ose pas de résister avec le catharisme, de retourner au catharisme. Nous sommes ici. Mais à l'autre côté, cette clocher, il est aussi une symbole de la richesse de la région parce qu'il est construit avec l'argent qui est gagné avec le cogagne, donc avec le pastel.
Ah oui, la culture du pastel, oui.
Et donc, ça donne la richesse pour construire une clocher qui ressemble plus à un donjon qu'une clocher, qui est d'une beauté incroyable de l'extérieur comme de l'intérieur. Il faut le voir, mais la plupart des gens, ouais, ils passent les petits villages comme Montjard parce que ouais, ça, il n'existe même pas une vraie rue, donc c'est ben, il faut le regarder pour trouver l'homme feuillu qui est là-dedans pour regarder les gaillottes extraordinaires de cette donjon. Donc, c'est une vraie expérience à regarder.
Et de fait, ce clocher, puisque nous avons la photo dans votre guide, est effectivement très impressionnant, comme une muraille de briques avec quand même des gargouilles, voilà, les cloches et un joli porche qui font quand même que c'est une entrée d'église et pas une entrée de fortification. Oui, c'est ça. Vous aimez dans votre ouvrage mettre en lumière des lieux inconnus du grand public et, je le disais en introduction, voire parfois de leurs voisins eux-mêmes. Alors, il y a ces petits, tout petits villages à Alette-les-Bains, Saint-Papoule, Saint-Rome ou Rieux-Minervois. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces villages, pour vous?
Bon, le plus particulier, qu'est-ce qu'on passe trop vite?
Comme le
domaine du Saint-Rome, par exemple, on ne trouve même pas sur les cartes. Parce que c'est un des plus petits villages de toute la France.
Oui, vous disiez 50 habitants. C'est quand même petit.
C'est ça, 50. Mais toutes les maisons, ce sont des villas dans un style différent. On a une style flamande à côté de quelque chose qui ressemble morisque ou oriental. Il y a des choses classiques ou qui la prochaine façade, il ressemble scandinave ou russe. C'est comme une petite ensemble de maisons pupées, mais c'est la réalité et on ne pense pas de ça. Donc c'est érigé au 19e siècle par le comte Henri-Louis César de la Panousse. Les descendants de Monsieur Panousse, il habite encore dans le manoir. Et les descendants des domestiques, ils restent dans leur propre maison, mais qui donnent une autre vie que les granges normales qui ont connu. Donc, ça c'est impressionnant, même que vous avez dit cette église spectaculaire de Rieux-Minervois.
Ah oui, Rieux-Minervois.
Oui, et donc une heptagone, c'est, à mon avis, c'est le seul du monde. Et bon, là aussi, les gens, ils ne le connaissent pas. Mais on construit pas une heptagone par hasard. Donc, c'est parce que ça, c'est architectural, c'est tellement difficile de faire une heptagone et personne ne sait pourquoi ils ont fait. Donc, il y a des hypothèses, mais toutes les hypothèses, ils n'arrivent pas à expliquer vraiment pourquoi ça s'est fait comme dans la forme de heptagone.
Donc, voilà, un défi à relever en famille ou avec des amis à l'occasion des vacances ou des prochains week-ends d'Ascension et de Pentecôte pour pérégriner tout au long du canal du Midi. Je rappelle votre ouvrage « Les 111 lieux le long du canal du Midi à ne pas manquer », un ouvrage aux éditions Aimon. Merci beaucoup, Kay Walter, de nous avoir enchanté.
Merci à vous.